Prélude. L'enveloppe scellée. Londres, 1943. Laboratoire de recherche du Courtauld Institute of Art. En cette fin du mois d'août 1943, le professeur Dan Thompson, directeur des recherches sur les techniques de la peinture ancienne et la restauration des fresques, se tient debout, tête baissée devant son bureau. Il vient d'apprendre une triste nouvelle. L'un de ses protégés américains à Londres, un jeune aviateur de l'American Air Force basé en Angleterre, est mort. Non pas lors d'une mission de bombardement, mais en se tirant une balle dans la tête. C'était le 3 août dernier. Il s'appelait Robert Mackenzie Leveridge, dit Bobby Leveridge. Il avait 24 ans. Il était l'un des plus charmants garçons que Dan eût jamais rencontrés. Et le neveu, le fils adoptif, l'enfant adoré de sa collègue, la directrice de la Morgan Library de New York, l'illustre Belle d'Acosta Green, une amie très chère. Lors de sa dernière permission en juin, Bobby était descendu chez Dan et lui avait rendu visite au Courtauld Institute, comme il le faisait toujours. Sur le perron, au moment de rejoindre sa base, Bobby s'était brusquement retourné. Il avait sorti une enveloppe de sa poche et la lui avait tendue. « Je voudrais que vous gardiez cette lettre. » Dan l'avait acceptée avec autant de surprise que de déférence, pensant qu'il s'agissait des dernières volontés de Bobby au cas où son avion serait abattu. Il avait répondu « Je vais la mettre au coffre. »« Non, » avait dit Bobby. « Je voudrais que vous la lisiez tout de suite. » Sur ces mots, il avait dévalé les marches et s'était enfui. Dan, qui pourtant n'était pas un sentimental, avait longuement regardé sa haute silhouette disparaître derrière les arbres de Portman Square. Une tête blonde, sous la casquette d'uniforme, de grandes mains diaphanes, une allure de poète ou de héros, l'incarnation de la jeunesse, du courage et de la beauté. Vaguement ému en songeant au combat qui attendait ce garçon, il avait retourné l'enveloppe. Elle n'était pas timbrée, mais marquée d'une étiquette « Examiner 908 ». Elle avait donc été ouverte par les services de censure anglais qui filtraient les courriers venant d'Amérique. Pas d'adresse, mais le nom du destinataire tracé d'une écriture ronde, très féminine. Lieutenant Robert M. Leveridge, aux bons soins de Mrs. Stevens. Craignant une indiscrétion en lisant une lettre de femme qui ne lui était pas destinée, Dan n'avait pas osé l'ouvrir et l'avait rangée dans son coffre, comme il en avait eu l'intention. Et maintenant, Bobby était mort, tué d'une blessure par balle qu'il s'est infligée à lui-même dans un moment de démence. Ainsi s'exprimait le ministère des Armées. Qu'est-ce qui avait pu acculer ce garçon, tellement loin de toute folie, plein de raison et de santé au contraire, à se faire sauter la cervelle? Un suicide incompréhensible. Et dire que Dan l'avait vu 2 mois plus tôt et qu'il n'avait rien compris, rien senti de son désarroi. Il y avait bien eu l'incident de cette lettre que Bobby lui avait confiée et demandé de lire tout de suite. S'il l'avait fait, aurait-il pu empêcher ce drame? D'un pas lourd, Dan Thompson se dirige vers le coffre de son laboratoire. Il en sort l'enveloppe, se rassoit à son bureau, chausse ses lunettes et déplie les 4 feuillets qu'elle contient. 8 pages recto verso. Pas de date, mais un en-tête. 995 Madison Avenue. Darling, il m'est presque impossible de t'écrire sans te dire toutes ces choses absurdes qui veulent dire « je t'aime ». Il s'agit bien d'une lettre de femme. Et d'une lettre d'amour. Probablement la dernière lettre de la fiancée de Bobby, une certaine Nina, dont il était follement épris. À mesure que Dan avance dans sa lecture, il sent comme un vague agacement. Les mots doux de la demoiselle lui semblent niais et son esprit confus. Mais ces minauderies ne sont rien comparées à la suite. Dan doit relire plusieurs passages pour bien comprendre. Ce que cette fiancée, qui se définit comme une clean white girl, une jeune fille blanche au sang bien propre, ce que cette femme écrit à cet homme, à ce soldat au front, dépasse les limites de l'entendement. Elle lui dit que depuis qu'elle-même lui a appris l'année dernière la chose que son père a découverte au terme d'une petite enquête, la chose qui leur a rendu la vie impossible, elle ne voit plus d'avenir pour eux. mais qu'elle est de nature fidèle et qu'elle l'épousera quand même, à la condition qu'il se fasse castrer. Elle dit encore, avec moult protestations d'amour, qu'il devra se faire castrer de toute façon, même si elle ne l'épouse pas. Tu en es conscient, n'est-ce pas, mon chéri ? Dan sent la nausée monter. Elle dit aussi qu'elle ne pourra supporter de ne pas avoir d'enfant à cause de lui, qu'elle ne pourra accepter de ne pas devenir mère. Et qu'en conséquence, il devra approuver qu'elle fasse appel à un donneur anonyme. Elle insiste sur sa peur que Bobby maltraite les rejetons qui ne seront pas de lui. Elle exige donc qu'il s'engage dès maintenant à les aimer comme les siens. Elle ajoute que l'idée de vivre avec l'argent de la putain noire du banquier John Pierpont Morgan, la mère adoptive que Bobby vénère, l'amie de Dan, Belle d'Acosta Green, la dégoûte, au point que tous les cadeaux que Bobby lui a offerts lui semblent sales. La perspective de fréquenter cette personne la choque même si profondément qu'elle n'ose penser à la promiscuité qui l'attend si Bobby devait continuer à la voir. En dépit de son propre écœurement et de sa colère, Dan s'oblige à poursuivre. La jeune fille affirme être consciente de l'attachement de Bobby à sa tante. Mais elle lui demande d'envisager une rupture pour que ses enfants n'aient jamais à entendre les commentaires qu'elle-même doit subir chaque jour dans la bonne société. On y raconte que la fameuse directrice de la Morgan Library peut bien paraître blanche aux yeux des naïfs, avoir ajouté à son nom le noble patronyme des D'Acosta et prétendre appartenir à une famille d'aristocrates portugais, ce qui expliquerait sa chevelure sombre et son teint basané, c'est de la vermine. Une authentique négresse. Elle souligne que la rumeur émane de plusieurs sources, sans malice. Enfin, elle supplie Bobby de répondre vite au courrier de son cher papa, car son silence est interprété par Daddy comme une preuve d'arrogance et une absence totale de responsabilité morale. Selon Daddy, deux traits typiques de la race noire à laquelle Bobby appartient. Dan a ôté ses lunettes. Ainsi, la chose que Bobby ignorait jusqu'à l'année dernière, la chose que cette garce lui a apprise lors de son ultime permission à New York, c'était cela. En dépit de ses cheveux blonds, de ses yeux bleus et de sa peau claire, Robert M. Leveridge est noir. Et sur ce point, les États-Unis ne plaisantent pas. D'après la loi, un seul ancêtre africain, qu'il remonte à de lointaines générations ou à une parentèle récente, un seul suffit pour donner naissance à une lignée de gens de couleur qui doivent se déclarer comme tels. Une goutte de sang noir, une seule goutte de sang noir dans les veines, fabrique à jamais des nègres. C'est l'implacable One Drop Rule, la règle de la goutte unique, avec son cortège de ségrégation, de discrimination et de persécution raciale. Dan Thompson mesure dans la seconde l'ampleur du choc chez ce garçon élevé parmi les nantis de Park Avenue, éduqué à Harvard avec les usages et les préjugés de sa caste, en apprenant ses origines afro-américaines. La crise d'identité que la découverte de cette ascendance a pu générer. Dan mesure aussi les conséquences d'une telle révélation sur sa vie de soldat. Si les autorités militaires américaines apprenaient que le lieutenant Leveridge était un officier de couleur, elles le sépareraient de ses camarades, l'expulseraient de son régiment et l'enverraient combattre dans une unité noire. En lui demandant de lire tout de suite cette abominable lettre, Bobby avait voulu partager avec lui le drame qui détruisait sa vie. Une preuve de confiance que Dan n'avait pas su saisir. Et maintenant, que doit-il faire ? Dan Thompson passera plusieurs jours à réfléchir. Brûler cette lettre ? Comment oser un tel geste ? Ce document que Bobby lui a confié moins de 2 mois avant de mettre fin à ses jours explique sa mort. Une forme de testament. Impossible de le détruire. Communiquer cette lettre à Belle, la mère adoptive de Bobby, l'amie de Dan qui s'abîme à cette heure en question sur les raisons du suicide de son neveu tant aimé. La pauvre femme a déjà souffert d'une crise cardiaque en apprenant la nouvelle. En fait de consolation, la lecture de ce torchon l'achèverait. Et puis, inutile d'ajouter l'insulte à la douleur. La chère belle n'a-t-elle pas toujours voulu garder le silence et brouiller les pistes, toutes les pistes, sur son passé ?